Bonsoir et soyez les bienvenus à l'écoute des RFI. Si vous nous rejoignez, il est 20h30 ici à Paris et 19h30 en temps universel.
Sylvie Berruet.
Bonsoir à tous. Beaucoup de questions après la réunion surprise hier au Qatar entre le président congolais Tshisekedi et rwandais Paul Kagame en plein conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Quels seront les contours d'un possible cessez-le-feu? Nous en parlerons avec Patient Ligaudy. Le président somalien a échappé à un attentat hier. Une bombe a explosé peu après le passage de son convoi à Mogadiscio. L'attaque a été revendiquée par les chebabs islamistes. Elle a fait de nombreuses victimes. Et puis en Côte d'Ivoire, cette loi qui fait polémique, l'Assemblée nationale adopte un texte pour mieux surveiller le fonctionnement des organisations de la société civile, officiellement pour lutter contre le blanchiment de capitaux. Mais les détracteurs du texte l'accusent d'être liberticide. Revenons sur cette réunion inattendue hier au Qatar où Félix Tshisekedi et Paul Kagame, sous la médiation de l'émir qatarien, ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'est de la République démocratique du Congo. Une déclaration qui s'inscrit dans la continuité du chef du sommet des chefs d'État qui s'est tenu le 8 février à Dar es Salaam, des chefs d'État de la SADC et de la communauté des États d'Afrique centrale. Mais sur le terrain, la situation est toujours préoccupante car des tirs ont été entendus aujourd'hui autour de Walikale Centre dans l'est du Congo. Alors quand ce cessez-le-feu peut-il entrer réellement en vigueur? Élément de réponse avec Patient Ligaudy.
Avant de voir des résultats concrets, plusieurs étapes restent à franchir. Explique plusieurs sources aux proches du dossier. Première étape, maintenir le contact entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Le Qatar veut jouer un rôle dans cette dynamique, mais aucun mécanisme formel n'a été mis en place. L'objectif n'est pas de créer un processus de Doha, explique un diplomate, mais plutôt de reconstruire progressivement la confiance entre les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Deuxième étape, mettre en œuvre les engagements pris à Dar es Salaam et cette tâche revient désormais au président en exercice de la SADC et de l'EAC, Emmerson Mnangagwa et William Ruto. Ils doivent se rencontrer d'ici à la fin du mois pour finaliser la fusion des processus de Nairobi et Luanda et assurer un suivi politique et technique de la désescalade. Selon la feuille de route proposée par les ministres des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC, plusieurs actions doivent être mises en place dans les 30 prochains jours. Un engagement politique des différentes parties pour relancer le dialogue direct, un engagement militaire pour éviter toute nouvelle escalade de violence et un mécanisme de vérification pour s'assurer du respect du cessez-le-feu.
Et l'annonce hier de cette rencontre des deux dirigeants à Doha a pris tout le monde de court, même si c'est un joli coup diplomatique pour le Qatar. Cette rencontre constitue un événement. Félix Tshisekedi et Paul Kagame ne s'étaient pas parlé depuis plus d'un an. Alors pourquoi l'ont-ils fait au Qatar? Élément de réponse également avec François Mazé qui nous dit que l'émirat a de très bonnes relations avec la République démocratique du Congo et avec le Rwanda.
Les relations du Qatar avec Kigali sont notoirement excellentes, comme en a encore témoigné le silence de l'émirat après les récentes critiques congolaises contre le partenariat entre le Paris Saint-Germain, propriété du Qatar, et Visite Rwanda. Les deux pays ont tissé des liens économiques qui doivent aboutir à la prise de participation par Qatar Airways de 60% du futur aéroport de Bouguessera, attendu en 2028 et qui deviendrait son véritable hub passager et fret en Afrique orientale, ainsi que de 49% de la compagnie nationale Rwandair. Dans le même temps, alors que Kigali est sous pression internationale en raison de son soutien au M23, le Qatar a apporté fin février 5 millions de dollars à la lutte contre la pauvreté. On se rappelle également que l'émirat avait joué un rôle de facilitateur dans la grâce et la libération de l'opposant Paul Rusesa Bagina en 2023. Le Qatar est donc très proche du Rwanda, mais a également d'excellentes relations avec Kinshasa. Félix Tshisekedi s'y est rendu à plusieurs reprises, la dernière fois début janvier. Il y a même établi une ambassade de RDC. Les deux pays ont signé un accord de coopération en 2021, prévoyant le développement ou la modernisation de plusieurs ports et aéroports congolais, des projets dont la concrétisation est toujours en cours de discussion.
Et c'est une nouvelle étape dans la procédure judiciaire qui vise Agathe Abiarimana en France. La Cour d'appel de Paris a examiné cet après-midi une requête du parquet national antiterroriste qui demande la mise en examen de l'ex-première dame du Rwanda, notamment pour entente en vue de commettre un génocide. L'enquête est ouverte depuis la plainte déposée en 2007 par le collectif des partis civils pour le Rwanda. Les avocats d'Agathe Abiarimana estiment que le dossier est vide, qu'il est politique et qu'un non-lieu devrait être prononcé, Guillaume Thibault.
À huis clos, la cour d'appel a statué sur 3 requêtes du ministère public. La mise en examen d'Agathe Abiarimana pour entente en vue de commettre un génocide, l'élargissement de l'enquête à compter du 1er mars 1994 et sur de nouvelles investigations. Pour le collectif des partis civils pour le Rwanda, présidé par Alain Gauthier, à l'origine en 2007 de la plainte contre l'ex-première dame, ces demandes sont fondamentales pour permettre à l'enquête de progresser.
Si le parquet demande une mise en examen, c'est qu'ils ont des éléments, c'est pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous, ce qui est important, ce sont les victimes, c'est pas le pouvoir à Kigali.
Placée sous le statut de témoin assisté en 2016, Agathe Abiarimana a été entendue à nouveau par le juge en décembre dernier. L'avocate de l'ex-première dame, maître Philippe Meillac, qui considère qu'un non-lieu aurait dû être prononcé en 2022 faute d'éléments, estime que les requêtes du ministère public permettent surtout de garder la procédure ouverte et donc de ne pas froisser les autorités rwandaises.
Ce dossier est désespérément vide. Tout ça, c'est un véritable coup de poker judiciaire, il n'y a pas d'autre mot. C'est de retarder le moment où ce non-lieu va être ordonné pour des considérations d'ordre politique.
Âgée de 82 ans, Agathe Abiarimana n'était pas présente à l'audience. La décision de la chambre de l'instruction, c'est la procédure, a été mise en délibéré.
En Somalie, Al-Shabaab, les Shabaab islamistes ont revendiqué l'attaque d'un convoi du président Hassan Cheikh Mohamud hier à Mogadiscio. Sur la route de l'aéroport, le cortège du chef de l'État a été ciblé. Une bombe a explosé peu après le passage du convoi présidentiel. Hassan Cheikh Mohamud, le chef de l'État somalien, est sain et sauf, mais des victimes civiles sont à déplorer. Gaël Alex.
Vers 10h30 hier matin, un immeuble du centre-ville de Mogadiscio explose alors que le convoi présidentiel passe à proximité. Des images diffusées par les médias somaliens montrent des voitures blindées déformées par la déflagration. Nos combattants ont visé le président Hassan Cheikh Mohamud, revendique quelques heures plus tard le groupe Al-Shabaab sur son canal Telegram. L'attaque a été déjouée et le président est arrivé sain et sauf à destination, explique le communiqué de la Villa Somalia, la présidence qui dénonce un acte lâche qui a tué plusieurs civils innocents. La destination d'Hassan Cheikh Mohamud, c'est à Dan Yabal, dans l'état du Moyen Chabélé, dans le sud-est du pays. Depuis plusieurs jours, les Shebabs et les troupes fédérales somaliennes s'y affrontent violemment. Mardi, les États-Unis ont opéré plusieurs frappes de drones dans la région à la demande du gouvernement somalien, explique un communiqué d'Africom, le commandement américain pour l'Afrique. C'est la deuxième attaque que subit le président Mohamud. La première était en 2014, lors de son précédent mandat. Une bombe avait alors explosé dans l'hôtel où il tenait un discours. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 20h38 ici à Paris, direction la Côte d'Ivoire où l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle loi pour mieux surveiller le fonctionnement des organisations de la société civile. Le texte permet notamment de contrôler la création et le fonctionnement des organisations pour, entre autres, lutter contre le blanchiment des capitaux. Mais ce texte est très décrié car jugé liberticide à Abidjan, Binta Diagne.
Principal objectif de cette loi, mettre de l'ordre tout en imposant des critères de transparence dans l'organisation et le fonctionnement de la société civile. Selon le ministre de l'Intérieur, le général Vagondo Diomandé, il y a près de 14 000 organisations de la société civile actuellement en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle loi leur impose de rendre un rapport d'activité et un rapport financier chaque année. Dans le viseur, les dons issus des organismes à but non lucratif religieux qui peuvent être abusés par des groupes terroristes, lit-on dans l'exposé des motifs de cette loi. Ce texte a été adopté à la majorité par 100 députés, 31 s'y sont opposés, essentiellement des députés de l'opposition. Cette loi présente une ingérence surabondante de l'administration publique dans la gestion des organisations de la société civile et des églises, estime Chrysostome Blessy, député du PDCI. Ce responsable conteste le lien établi par le législateur entre le financement des organismes de la société civile d'un côté et le blanchiment d'argent de l'autre. « Donnez-nous des statistiques et des données claires », insiste-t-il, tout en dénonçant une dérive autoritaire selon ses mots. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Le football est la cinquième journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2026. Le Cameroun a fait match nul face à Eswatini, 0-0. Le gros coup de la journée est revenu à Madagascar qui a cartonné face à la République centrafricaine 4-1 dans une rencontre qui s'est jouée à Casablanca. Les Malgaches prennent provisoirement la tête de leur groupe. Enfin, la Tunisie a battu 1-0 le Libéria. À Monrovia, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, les 20h40 ici à Paris.